Depuis le mois dernier dans Tactique, nous essayons avec Joanny et Jaouda Saïli de comprendre ce qu'est l'intersectionnalité. Comprendre, mais également expliquer comment, dans un système inégalitaire, on tente de la faire disparaître. Jaouda est professeur des universités, sociologue du travail et des professions, spécialiste de l'intersectionnalité, des processus de discrimination et des inégalités. Joanny, elle, organise depuis 2 ans les soirées de la décolonialité à Reims, soirée visant à rendre plus visibles les questions de race et de décolonisation du monde et des corps. On continue.
Le problème que pose l'intersectionnalité, en fait, c'est que c'est sortir de cet universalisme blanc, bourgeois, qui a été tellement nourri historiquement. Et puis, quand je pense, on se dit que la route est longue, c'est dans le côté où il y a tellement à rappeler, en fait, j'ai l'impression. Mmh. À rappeler, à renommer, à décortiquer. Parce que, en fait, on a un monstre en face de nous, très bien huilé, très bien organisé depuis des siècles et des siècles. Et du coup, voilà, décortiquer et rappeler des choses. Je pense que l'éducation populaire a sans doute sa grande place là-dedans, parce que c'est vraiment rappeler tout un historique de ce monde qui, finalement, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, en fait, sur une échelle, si on s'amusait à faire l'échelle d'où il se situe l'universalisme, les Lumières, ce monde moderne, en fait, il représente pas grand-chose, en fait, à l'échelle du monde. Et du coup, voilà, et peut-être encore des questions, parce que...
Mais moi, je pense que c'est la fin de ce monde-là, justement. Parce qu'on est en train de voir beaucoup de pays, alors là c'est économique, mais les mentalités elles vont changer aussi. Là, on est en train de voir beaucoup de pays qui se rallient aux BRICS, les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Le monde occidental, il vit ses dernières heures. Quoi, ses dernières heures, c'est un bien grand mot, mais le blanc fier de l'être et qui veut écraser tout le monde, quoi. C'est bientôt mort pour lui, quoi, je pense que...
Moi, je pense quand même qu'avant que ça soit mort pour lui, ça passera par un processus où il va se nommer et se regarder en face. Et pour moi, là, on n'y est pas encore, en fait. Je le vois dans mon quotidien, comment il y a une sociologue comme ça, Robin DiAngelo, elle est américaine, elle a écrit « La fragilité blanche », où en fait, elle décortique le principe même de la blanchité, en fait, c'est de ne pas savoir qu'on l'est. Tu es blanche, je suis blanche, il est blanc, il le sait pas. Parce que ça a été... le fait de ne pas nommer, c'est parfait pour perpétuer finalement un ordre...
Il n'y a pas la prise de conscience d'une différence, quoi. On a l'impression que... Quoi,
rien que dans, effectivement, le phénomène de racialisation dont on a parlé tout à l'heure, souvent, le blanc, la blanche, s'en extrait. Ils se sentent pas faire partie de ça. Pour eux, c'est toujours l'autre qui est racisé. Par contre, je pense que je suis vraiment... Je reste une personne qui a beaucoup d'espoir. Et je pense aussi que, franchement, c'est en train de se casser la gueule, clairement.
Ouais, clairement.
Pour autant, pour moi, on n'y est pas encore, dans le sens où ça va, je pense, devoir vraiment passer par devoir se regarder dans la glace, devoir se réapproprier, Le travail d'imagination, là, il est hyper important de c'est quoi le reflet qu'on a en face de nous, dans la glace. Et effectivement, selon nos positions, selon nos cumuls, on va avoir des choses différentes à faire. En tout cas, pour la question de l'ordre établi, de cet universalisme qui est, pour moi, complètement en lien avec la race et la blanchité, il y a un gros travail à faire de la part des personnes qui, dans ce processus de racialisation, ont été placés dans le groupe dominant, qui est donc celui des Blancs. Et voilà. Et c'est OK. Et ça peut, je pense, se faire joyeusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plein d'ouvrages, il y a plein de penseurs, de penseuses qui ont fait ce travail. Et donc, La fragilité blanche, elle est vraiment passionnante. C'est un livre que vraiment je conseille, de Robin DiAngelo. Parce que voilà, ça permet de défaire un peu cet ordre établi, parce que si on ne nomme pas, si on ne se voit pas, bah, on fait que continuer les choses et voilà. Mais c'est pas facile apparemment de se nommer blanc, de se voir blanc, de se voir blanche. Il y a tout le temps un ego, une souffrance en fait qui se réactive, j'ai l'impression. Ça pose vraiment problème et ça en dit long pour moi, je pense, sur tout ce dont on est en train de parler.
Bah, ça veut dire qu'on assume une partie de ce qui a été fait en notre nom, quoi, en notre nom, sans, quoi, dans les siècles précédents. À partir du moment où tu sais que les Blancs ont opprimé les Africains, quoi, les autres, ou les Américains, quand ils sont allés, quand Christophe Colomb est allé découvrir l'Amérique, forcément, tu es obligé en tant que Blanc de te prendre, de te dire, on se croit fort, mais on n'a pas fait que des choses sympas, quoi. Et on a quand même, quoi, même si c'est pas nous personnellement qui l'avons fait, mm-hmm. c'est quand même des lignées qui nous ont précédés et qui.
Alors, juste, moi, je vois pas tout à fait les termes comment dire. Moi, il me semble pas que le Blanc. Se doit de faire un mea culpa sur l'histoire passée, etc. Ça serait bien, mais faut pas rêver. Par contre, l'idée, c'est d'accepter qu'effectivement, il y a un privilège blanc. Et accepter qu'il y a un privilège blanc, c'est pas forcément se dire « Oh, on n'a pas tout bien fait dans l'histoire », c'est pas forcément de se dire « On est... » Oh, faut que j'accepte qu'il y a une différence entre nous. C'est vraiment accepter que le privilège blanc, et je le disais tout à l'heure, permet d'accéder à une position hiérarchique dans la société supérieure. Donc, on peut être complètement antiraciste, je réponds du coup, antiraciste et blanc.
Oui,
tant,
bien sûr.
Tant que, bah, finalement, mais la seule chose qu'il dit, c'est d'accepter d'une certaine manière que son privilège blanc permet d'occuper une place au niveau statistiquement prouvé, sur des études qualitatives prouvées, qui fait que c'est plus simple d'avoir un travail, c'est plus simple d'avoir un logement, c'est plus simple d'avoir certains accès que d'autres. C'est tout. Voilà. À partir de là, c'est pas tant... refaire l'histoire et...
Non, mais sans refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut être mal à l'aise vis-à-vis de ce passé pas brillant, quoi.
Bah, dans ce cas-là, on pourrait être tous mal à l'aise. Hein,
parce oui, bien sûr.
Moi, je vois pas une civilisation dans ce cas-là, pourquoi ça serait encore un privilège du blanc que d'être mal à l'aise, de l'histoire qui a été... Non,
mais ça, c'est hyper important aussi. Mmh. Ça permet, en tout cas, moi, je sais de ma position d'où je pars en tant que... Donc, adoptée transraciale qui voilà, et c'est hyper important là ce que vous dites, parce que c'est aussi ne pas exotiser l'autre en fait, c'est-à-dire que toute civilisation, moi j'en connais aucune, en même temps je suis pas spécialiste et tout, mais qui est pacifiste en fait. Enfin, je veux dire, et en tout cas ce que tu dis, Cécile, effectivement, c'est ça montre toute la complexité du travail, parce qu'il y a à la fois, j'apprécie beaucoup, merci, votre positionnement de sociologue, de tout le temps ramener à du matérialisme, à revenir dans l'ancrage. On sent qu'on est concrètement, c'est quoi les conséquences si j'analyse la blanchité, et voilà, en fait, j'ai tel privilège à l'école, au niveau de l'accès au logement, au travail, à marcher tranquillement dans la rue, etc. Ça dépend justement si je vais être une femme, on est en plein dans l'intersectionnalité. Et donc, il y a ça, en même temps, je pense que ça peut peut-être aider pour reprendre la racialisation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la blanchité, les Blancs font partie du phénomène de racialisation du monde. Et ce qui peut-être peut faire du bien au niveau de faire du bien pour créer du sens commun, c'est que concrètement, on n'a pas choisi ça, en fait. Ici, tous présentes, je crois, c'est pas nous qui avons inventé tout ça. En fait, on ne fait que subir la racialisation du monde, Ouais. Avec effectivement des positionnements où je vais être privilégiée, où je ne vais pas l'être. Mais si on va vraiment vers démonter ce faux universel et aller vers un universel ou des universaux, ou je ne sais pas comment dire, c'est à nous de l'imaginer et de réinventer les choses, eh ben, la blanchité a toute sa place, parce que je pense que quand on commence à penser sa blanchité avec peut-être un peu de détachement, effectivement, sortir de l'émotionnel pour entrer plus dans l'analyse matérialiste et qui aide à prendre du recul, en fait, on a le droit aussi d'être dans l'émotion et de se dire bah ouais, malgré moi, je porte l'historique d'un groupe social avec moi, et cet historique m'ennuie, pour rester poli. Et ben, je pense quand même que le fait de se mettre à analyser sa propre blanchité, ça permet finalement de construire autre chose, parce que ça permet finalement d'être encore plus humaniste et universel, dans le sens de dire je n'ai pas choisi d'être privilégié, parce que je n'ai pas choisi cette racialisation du monde, par contre j'en veux plus. Et parce que j'en veux plus, et ben, je vais m'atteler à décortiquer tout ça, parce qu'on me l'a pas appris en fait à l'école, nulle part, et que depuis toujours on me fait juste penser que c'est naturel et que c'est comme ça en fait. Donc voilà.
Je voulais rebondir à ce que disait Cécile, mais vous avez parfaitement résumé. C'est qu'à un moment donné, il faut une prise de conscience de ce qui s'est passé pour se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé justement, pour se rendre compte de ce qui se produit encore à l'heure actuelle en fait. Et là, de se dire, ok, c'est arrivé, je sais à peu près pourquoi, tâchons aujourd'hui de ne pas refaire la même erreur de fonctionnement en fait. Après, ce qui est passé, hein, j'étais pas là, mais je continue à le subir, et les autres personnes le suivent, parce que le fait qu'on ne parle pas de race, le fait qu'on se reproche pas certaines choses qui se sont passées à cause des Français, ou à cause de... On tolère encore d'autres choses, parce que justement, on n'en parle pas de ça. On se dit, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, et... Oui, mais on continue encore.
Il y a le catholicisme aussi qui a joué un rôle vraiment délétère dans cette histoire-là. C'est que quand on voit Marie blanche comme avec un teint de porcelaine au Moyen-Orient, ben, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Après, quand ils sont allés porter la bonne parole en Afrique et qu'ils ont dit, bah oui, forcément, les Noirs ont vu cette femme blanche qui représentait la pureté et la tout vraiment. Ils n'ont pas pu s'y identifier, et pour eux, forcément, à côté, ils étaient impurs, quoi. Même si ça n'avait rien à voir, mais c'est comme ça que ça a été interprété. Et je pense que ceux qui sont allés porter, entre guillemets, la bonne parole, ne se sont pas, sont pas bousculés pour leur dire « Non, non, il n'y a pas de souci. » Et on en parlait avec Yoani là, ce week-end, en fait... On avait vu un reportage où il montrait deux poupées, une blanche et une noire, à des enfants, à des petites filles noires. Et en fait, elle préférait la blanche parce que la noire, elle la trouvait sale. Mmh. Et ça, franchement, c'est... du coup, eux aussi, ils sont imprégnés de se dire, oui, mais si je suis noire, c'est parce que je suis sale, je ne suis pas pure, quoi. Et je pense que là, il y a l'Église catholique. Alors, je parlerai que d'elle parce que je connais pas d'autres. Quoi. Moi, j'ai baigné là-dedans et je connais pas les autres religions. Mais à faire un mal fou, je pense, en Afrique, partout, ils sont allés porter la bonne parole, quoi.
Comme tous les systèmes dominants, de toute façon, généralement. Ouais.
Et c'est d'autant plus dur d'en sortir parce que nous, on est arrivé avec notre suprématie. Et puis bah, les autres, on leur a montré que, et en fait, chacun reste dans sa posture du dominant et du dominé. Mais c'est de ça dont il faut sortir. Et c'est vrai que c'est compliqué. Parce que je pense que c'est inscrit dans l'ADN de tout le monde, en fait.
Alors, je vais rebondir sur la notion de blanchité, oui, et de privilège. Parce qu'en fait, c'est aussi un reproche qu'on entend hein, sur les recherches de l'intersectionnalité, c'est que en fait il faut mettre en valeur l'individu, la prise de conscience de l'individu. Donc c'est un peu toujours la même critique en fait hein, par rapport aux structures. Ça voudrait dire qu'il y a pas que les structures n'ont pas de poids puisque c'est aux individus de prendre conscience et de se transformer. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ?
Non, justement, je crois que le parler de blanchité ou de privilège blanc, à ma connaissance, hein, c'est pas les individus. C'est vraiment ramener un statut, à du structurel, en fait. Hein, c'est un statut qui est accessible pour certains ou certaines et pas à d'autres. Voilà. Et qui s'inscrit dans une structure sociale de hiérarchisation. C'est pour ça que je reviens toujours à la question de la hiérarchisation. Moi, je viens fondamentalement de la sociologie du travail. Et la première chose que j'ai vraiment apprise, c'est qu'on est dans des sociétés hiérarchisées, structurées. Il suffit de regarder comment s'établit dans le monde du travail. On a des hiérarchies professionnelles hein, qui vont être en lien avec des hiérarchies salariales et qui vont déterminer en fonction de l'emploi qu'on occupe, du métier qu'on fait, qui vont déterminer des salaires, etc. On peut se demander pourquoi. Moi, c'est toujours la question que je pose aussi aux étudiants. Hein. Pourquoi la personne qui nettoie les rues, finalement, elle va être positionnée d'office. Ça, c'est structurel, et c'est des personnes qui négocient autour d'une table, dont les syndicats, dont le patronat, dont l'État, hein, mais qui vont décider, ils se mettent d'accord pour établir cette hiérarchisation, en fait. Et le privilège blanc, c'est la même chose, en réalité, c'est plus implicite, c'est plus diffus, mais il y a eu des accords qui se sont faits sur des laps de temps très longs et qui font que il va y avoir un privilège qui va être accordé aux blancs plus qu'aux autres du fait de l'histoire, du fait de décolonisation, du fait de l'essor du capitalisme moderne hein, qui naît fondamentalement avec sous l'influence là effectivement des religions, mmh. du protestantisme hein, encore plus, etc. Voilà, c'est des colonisations, on va dire religieuses, mais très capitalistes en réalité aussi, qui font que ça va ramener à l'établissement de catégories hiérarchisées, etc. Donc c'est pas fondamentalement ramené aux individus en tant que tels qui doivent prendre la responsabilité. C'est pas tout à fait ça. C'est comme de dire les hommes et les femmes aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que les hommes et les femmes occupent un statut égalitaire ?
Non. Hein ? Oui. J'ai attendu que tu répondes, Jean, clairement, de mon point de vue, non.
C'est évident.
Non. Et ben voilà.
Ouais, c'est évident.
Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, il y a plein d'éléments là aussi très matérialisés, matérialistes, qui font qu'on sait que c'est pas. Qu'on n'a pas des statuts égalitaires, on n'a pas les mêmes parcours, trajectoires, etc. On se doit, pour une femme, d'assumer à 90% la prise en charge de la famille. Ça ne bouge pas, ça ne change pas, on ne me dira pas le contraire, on a des nouveaux hommes, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, en même temps, on renvoie pas renvoyer à la responsabilité des femmes pour faire changer les choses. Ben non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans un cadre qui a été établi c'est ce cadre-là de hiérarchisation qu'il faut avoir, j'ai envie de le dire, le courage à un moment donné de mettre sur la table et puis de décortiquer, hein, de regarder, de déconstruire pour se dire non. Et puis pas ramener la responsabilité aux individus en tant que tels. C'est pas tout à fait ça là.
Il y a également un mélomane qui s'ignore.
La question, et pour le privilège blanc, c'est la même chose, me semble-t-il.
Mais l'ordre établi adore ça, de tout ramener à juste l'individu, déjà parce que ça nourrit le capital.
Ouais.
de rendre les gens tout seuls, individualistes, en mode ah, c'est bon, je dois tout prendre en charge.
Et rejeter la faute sur le voisin ou être jaloux du voisin uniquement.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
En plus, ouais, ouais. Voilà, en fait, c'est ça, hein, c'est que je sais que lors des dernières soirées de la décolonialité, ce thème-là, un peu de l'individualisme et tout, il a été abordé. Et en fait, l'ordre établi déteste qu'on fasse corps, qu'on fasse commun. Et je pense que l'intersectionnalité, ça permet ça, en fait. Ça permet de faire corps, ça permet de faire commun, avec certes de la complexité, ça permet, ou demande en tout cas, de développer des imaginaires, des formes d'écoute, de s'écouter, comment on s'écoute, comment on se parle, comment... Enfin, en fait, c'est pour ça que ça dérange, parce que l'ordre établi adore qu'on soit seul et qu'on se sente au contraire responsable de tout, et surtout toute seule.
Dans un contexte de capitalisme qui, alors lui, alors, encore, le capitalisme c'est pervers, parce que il s'accommode bien de ses problèmes, de ses questions. Vous parliez des poupées, voilà. Quand le capitalisme sent qu'il faut tiens changer un peu la donne, on n'a que des poupées blanches, on va faire des Barbies noires. Hein. La question, c'est de se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les Barbies, ce qu'elles représentent. Mais non, on va faire des Barbies noires. Et donc là, on est sur le registre. Le capitalisme, d'une certaine manière, il agit pour reconnaître les différentes couleurs, races. Et, voilà, et le capitalisme, tant qu'il peut faire du fric avec ces questions, il en fait aussi. Ce qui vient complexifier la donne, puisque... Puisqu'après, c'est souvent suivi par les politiques, en fait, voilà.
Oui, parce que je réfléchis en même temps. Parce que je vais reprendre la distinction que vous faisiez avec les cadres et les ouvriers. Je veux dire, donc, alors effectivement, il n'y a aucune raison pour qu'un ouvrier ne soit pas autant payé qu'un cadre, etc. C'est une des questions que je posais dans mes cours, moi, en seconde. Expliquez-moi pourquoi un ouvrier est payé trois fois, enfin aujourd'hui c'est nettement plus.
30 fois aujourd'hui.
Qu'un cadre. Il ne trouve pas. À part l'idée qu'il y a les études, la formation, la productivité, des choses comme ça. Bon, ok, mais c'est quand même inscrit, je veux dire, dans une structure sociale. Alors que, dans une structure sociale, avec des conventions collectives, etc. Donc il y a une légitimité.
Et non, mais ça ne veut pas dire que c'est juste.
Ouais. Non, voilà. Mais je suis bien d'accord. je suis bien d'accord. Moi, je ne fais que poser des questions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est parce que c'est des choses qui m'interrogent. Ouais. Et donc, quand vous parliez de privilèges blancs, etc., c'est beaucoup plus dans les valeurs, les comportements, que dans une structure ou une hiérarchie sociale inscrite dans un code, etc. C'est la question que je me pose.
T'es allé à Paris un dimanche matin, quand tu vois la propreté de Paris, c'est que des personnes noires ou...
Non, mais je sais bien ça. Je sais bien.
Mais du coup, oui.
La
question, en fait, c'est de se dire que... la question qu'on doit se poser, c'est les cadres, statistiquement, sont quand même plus souvent des personnes blanches, des hommes. Voilà. Alors maintenant, dans l'entreprise, on devient vieux dès 45 ans. Hein, comme quoi, c'est fluctuant, c'est mouvant et ça peut changer. La question, c'est ça. Et pourquoi dans les métiers du nettoyage, dans le métier
gardiennage
du care, le care, alors là, c'est puissance 10 000. Les métiers, on l'a vu aussi avec Covid, etc. Ménage, soins des personnes, etc. Regardez. Ce sont majoritairement des femmes racialisées, sans qualification, mais parfois elles en ont et elles se retrouvent quand même dans ces métiers. C'est pas voilà, il y a.
Mais au niveau du réel, je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est le réel qui fait que d'accord.
Il y a pas de problème.
C'est structurel, mais comme vous le disiez, c'est les conventions collectives et donc c'est. À chaque fois, en réalité, ça peut être remis sur la table. À chaque fois, ça peut être discuté. À chaque fois, il peut y avoir les syndicats, l'État et le patronat qui peuvent discuter là-dessus. ça bouge pas. Comment on s'explique ça?
Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. À l'endroit où il naît. Est-ce que les gens laissent écho en voix? À l'endroit où il naît. Est-ce que les gens laissent pareil ou pas? Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Est-ce que les gens laissent écho en moi? À l'endroit où il
meurt.
Est-ce que les gens laissent écho en voix? À l'endroit où il meurt. Est-ce que les gens laissent pareil ou pas? Que les gens laissent écho en voix? À l'endroit où il meurt.
Comment on s'explique ça? Ça ne bouge pas alors qu'on a, on a cette réalité. Ben, ça ne bouge pas parce que là encore, ceux qui font et ceux qui négocient, quand on regarde bien, ce sont des hommes. Mmh. Ce sont des hommes blancs, ce sont des hommes... voilà,
je parle, qui n'ont pas envie que ça bouge.
Et puis, voilà, mais qui ont cette représentation. Moi, c'est pareil. Moi, mes étudiants, je les fais souvent travailler sur cette question de hiérarchie. Et qu'est-ce qui peut expliquer... Je prends... un professeur des universités va être mieux... On est mal payé, hein, je relativise. Mais quand même, va être mieux payé qu'un professeur des écoles. Pourquoi?
Oui.
Alors, on va me dire, c'est les études. Bah, parce que ça a été négocié de telle manière qu'on va, les grilles, Parodi et d'autres vont dire, telle année d'études, c'est tel niveau, c'est tel salaire, tel... Mais c'est parce que ça se négocie, il y a eu une négociation. C'est pas, on n'a pas mis ça dans un logiciel, on le fait maintenant avec la compétence. Mais ça s'est négocié autour d'une table et il y a ces représentations-là du cadre de... Quand je dis les études, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas considérer, parce que il faut faire un certain nombre d'études pour être prof des universités. Ouais, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas considérer que justement, c'est une chance de faire des études ? Et que ceux qui ne peuvent pas en faire, c'est pas parce que forcément ils ne veulent pas en faire, c'est qu'ils sont dans des statuts qui ne peuvent pas leur permettre d'en faire. Donc est-ce qu'on ne devrait pas leur les payer plus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, déconstruire le... Voilà. Et puis,
sur l'utilité aussi. Voilà. Hein.
Et sur l'utilité, je fais la même chose. Je dis, finalement, moi, vous êtes captifs. En plus, j'ai des étudiants Master 1, Master 2. Personne ne les force à venir. Ils sont là. Ils sont pas captifs. Justement, ils viennent... Un professeur des écoles, les gamins, ils préfèrent être n'importe où ailleurs. Hein. Ils comprennent parfois pas trop,
récré,
voilà, pas trop pourquoi ils sont là. Il faut faire avec eux. Et puis, en plus de ça, il faut leur apprendre à lire, à écrire, à parler, à les codes. Et puis, ils ont une personne qui va être déconsidérée dans la grille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. Hein. Moi, je suis très interpellée par. On n'a pas tout à fait les statistiques, mais il y a beaucoup de mal à recruter dans l'éducation nationale, alors que c'est un niveau bac plus 5 hein, dans les INSPE. Bac plus 5, il faut réussir un concours qui est très difficile. Et il y a de plus en plus de jeunes futurs professeurs des écoles. Qui ont le master, qui ont le concours et qui démissionnent au bout de 3 ans. C'est quand même étrange. Bah, moi, je ramène ça beaucoup aux conditions de travail et puis la reconnaissance et puis le salaire.
Oui, et puis ils ont des classes, je pense, surpeuplées, quoi, surchargées. Quoi. Quand on a des enfants en primaire, on ne peut pas avoir à gérer 30 enfants.
Il y a ces conditions-là, mais je pense que fondamentalement, c'est aussi en termes de reconnaissance de sa mission sociale. Hein. C'est pas valorisé. Ouais. C'est pas valorisé.
Mais de toute façon, avant même quand vous parlez de négociation, le fait même d'avoir défini une structure sociale, le fait même d'avoir donné une certaine valeur à l'argent, c'est nous qui l'avons créé. Enfin, donc c'est dès le départ, c'est bien nous qui avons créé un système qui crée tant de différences. Et tant que tu prends pas conscience de ça, tu te dis pas ah ben tiens. Peut-être qu'on peut le voir différemment, en fait.
Oui. C'est les puissants qui l'ont créé.
Je dis, c'est nous. Non, je parle de la race humaine. Je dis juste, voilà, quand on arrive sur ça n'existait pas. On a décidé de créer, de se structurer. Pourquoi ? Probablement pour des bonnes choses d'un côté, pour de moins bonnes de l'autre. Et on reste avec ça en mode, ça a été fait, on continue comme ça. Ben,
alors,
ou pas ?
Pour le coup, je me permets de dire que la race humaine, ça n'existe pas.
Pardon.
Par rapport à toutes nos discussions. Non, parce que justement, c'est ce qui va discréditer l'intersectionnalité et la notion de race. Les humains existent, mais la race humaine n'existe pas.
Mais elle ne coule pas.
Pardon. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire quand même,
bien sûr,
parce
il faut.
Que c'est super important.
Il y avait un débat que j'avais noté, donc je vais le reprendre, mais c'est un peu le même, quoi.
on
tourne pas en rond, on approfondit au fur et à mesure. C'était donc la critique du féminisme qu'on entend, donc la critique du féminisme blanc, voire colonial, etc. Et pourtant, ce féminisme-là, donc pareil, hein, me fait l'avocat du diable, donc se réclamait toujours des mêmes universaux, hein, donc liberté, égalité, etc. Et donc, qu'est-ce que ça apporte au mouvement féministe, donc, de faire une critique d'un féminisme blanc et colonial ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement au niveau des luttes ?
Oh, j'ai envie de dire que c'est une lutte des places. Pour reprendre une... C'est une lutte
Bourdieu.
Des places. Non, Bourdieu, De Gaulle-Jacques, ouais, voilà, c'est une lutte des places parce que pour y avoir été un peu confrontée moi-même dans ma trajectoire de recherche, j'ai trouvé sa place quand on s'intéresse aussi... c'est un peu comme la question de la classe pour moi. Hein. Je vais faire une réponse très très orientée moi personnelle. Hein, donc, mais la question de la classe, quand je côtoie un peu les milieux autour universitaires de recherche autour de la sociologie du travail, c'est la classe d'abord. Mais vraiment, c'est ce qu'on entend hein, quand même. Et puis, quand je suis pas complètement satisfaite et que je me dis, il y a quand même autre chose de ce que je vois, de ce que j'observe dans le monde du travail, tiens, allez, je vais aller voir. Et puis, on m'a fait un appel du pied, je vais aller voir dans un laboratoire où il y a plutôt des chercheurs qui travaillent le genre, la question du genre. Et là, c'est le genre. Donc, le temps passe, donc je caricature un peu, mais c'est ça. Il va se poser les mêmes questions, en fait. C'est à quelle priorité on donne au rapport de domination. Et dans le féminisme blanc, me semble-t-il, le rapport de domination qui doit primer, alors pas dans une autre forme qui s'est un peu développée autour d'un féminisme qui dit matérialiste, donc qui est à la fois autour de la classe et du genre, voilà. Mais c'est les deux grands rapports de domination par lesquels il faut sur lesquels il faut concentrer la dénonciation, le combat, l'analyse, pour pouvoir aboutir à une émancipation. C'est comme si que ces deux rapports de domination, une fois qu'on s'en serait débarrassé, on obtiendrait une disparition des autres rapports de domination, en fait. Voilà. Et pour ce féminisme, il y a cette idée, donc, on est d'abord dans la recherche d'une égalité femme-homme. Pré-genre, LGBT, etc., ça se développe, mais c'est d'abord femme-homme. Quand se développe la question de l'intersectionnalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord un groupe de femmes noires et lesbiennes qui se rencontrent et qui disent « mais pourquoi on ne se reconnaît pas là-dedans ? » Nous, notre problème, ce n'est pas tant la question strictement de l'égalité homme-femme. On sent que dans notre vécu, il y a autre chose. Enfin, dans ce qu'on traverse, là où on nous situe, etc., il y a autre chose. Ça reviendrait à dire, encore une fois, de manière très caricaturale, je dois être égale. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Mais en même temps, je me sens parfois plus égale avec un homme noir qu'avec avec une femme blanche. Voilà. Et c'est ces débats-là qui vont se poser. Après, je dis une prise de place parce que il va y avoir une lutte des termes. En France, on va plutôt s'accaparer de la notion de consubstantialité, qui est une notion très pour le coup religieuse, hein. C'est ça qui est intéressant, et c'est les matérialistes féministes, hein, qui l'ont développé, ouais. La consubstantialité, mais toujours avec cette idée que quand même, ce qui prime, me semble-t-il, hein, c'est la classe et le genre avant tout. L'intersectionnalité, moi, c'est comme ça que je le lis. On n'est pas toujours forcément d'accord, mais l'intersectionnalité avance le pion avec lequel, à mon avis, on ne peut plus faire sans, c'est la race. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais je crois que dans le débat, ça rejoint un peu ces groupes constitués de chercheurs qui ont fait leur niche sur des sujets et qui avec lesquels il va falloir parlementer, discuter, pour qu'on puisse avoir à un moment donné une ouverture sur la question intersectionnelle, qui va se faire, à mon avis, en France, beaucoup dans les coulisses plutôt que dans les laboratoires. Je rappelais ça il y a pas très longtemps dans un séminaire, c'est que moi je me rends compte que c'est par lien avec d'autres collègues racisés comme moi. Voilà, on est aussi sur... Il y a les postes, pourquoi un tel... On est aussi sur ces questions-là. Et en fait, moi, je me rends compte qu'on a beaucoup procédé pour avancer sur cette question intersectionnelle en France en nous rassemblant comme ça, en nous identifiant comme ayant un même vécu situé de collègues racisés, en fait. Et souvent des femmes, en disant, voilà, moi, juste pour terminer, mais je me souviens que le féminisme blanc, d'une certaine manière, avait beaucoup soutenu le mouvement qui s'appelait je ne sais pas si vous vous en souvenez, ni pute ni soumise.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, et moi, j'ai des collègues qui m'avaient explicitement demandé, mais dit, t'as vu, c'est super, hein, c'est vraiment bien ce qui est fait. Et moi qui étais sortie complètement anéantie, parce que je n'adhérais pas du tout. Qu'est-ce que ça voulait dire, ni pute ni soumise? C'était renvoyé aux frères, aux cousins, aux garçons arabes, comme dirait Nasser Al-Ghenif, encore une fois. Donc c'est ni pute ni soumise par rapport à celui qui habite avec moi, enfin, et qui nous identifie. Et qu'est-ce que ça voulait dire en termes de soutenu par du féminisme blanc, alors que il y avait toute une dimension qui n'était pas vue là-dedans. Et encore une fois, c'est bien. Moi, je suis ravie parce que ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait cogiter sur qu'est-ce que j'avais envie de travailler et déconstruire.
Puis il y a toute une éducation populaire encore, je pense, à faire aussi, qui s'arrête jamais hein, sur le sujet. Moi là, quand j'entends féminisme blanc, je peux pas m'empêcher à chaque fois de penser au fait que alors que les femmes en France manifestent et luttent pour le droit à l'IVG à l'époque. À aucun moment je dis que c'est, enfin, cette lutte doit être menée. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, et encore une fois, c'est en lien avec des récits qui sont non dits, qui sont effacés et dont je pense on doit connaître, en fait, ne serait-ce que pour essayer de créer un espèce de sens commun entre nous. C'est que en même temps, en fait, dans les dites outre-mer, alors que même que l'IVG est encore interdit en France, on stérilise les femmes à La Réunion sans leur consentement. C'est des femmes qui arrivent à l'hôpital parce que elles viennent pour une consultation et en fait elles repartent sans leur bébé alors qu'elles étaient enceintes. Elles repartent en essayant par la suite d'avoir des enfants vu qu'elles ont perdu cet enfant et elles n'y arrivent plus. Voilà, en fait on pratique l'IVG dans les Outre-mer alors même qu'en France les femmes luttent pour le droit à l'IVG. Et donc c'est des féministes blanches qui luttent. Donc l'idée c'est pas de moi là ce que je me dis et je pense en direct, c'est que voulez-vous, à l'époque ces femmes elles luttent pour un droit qui est fondamental, voilà, le droit à l'IVG. Sauf qu'aujourd'hui, en 2023, peut-être qu'en fait être en connaissance de ces histoires, eh ben, ça permet effectivement, éventuellement, à un féminisme blanc de se remettre en question. Par se remettre en question, c'est juste se dire que, en fait, il y a eu des luttes, il y a eu des choses qui se sont passées, encore une fois, en dehors de cette espèce d'eurocentrisme. Et voilà, et il faut en sortir. Et pour en sortir, ben, je crois qu'on a besoin de récits, on a besoin d'histoires, on a besoin de choses qui nous sont contées, qui nous sont racontées, qu'on connaît. Pas parce que on et voilà, ça me fait penser à ça. Et du coup il y a un livre Le ventre des femmes sur le sujet de ces IVG et comment on appelle ça, ces stérilisations forcées à La Réunion, Le ventre des femmes de Françoise Vergès. Et j'invite toutes féministes hommes et femmes à le lire.
D'autant que c'est sur décision politique, puisque c'est Debré. C'est quand même Debré hein, qui
ah oui bien sûr
qui
ça
organise
se fait pas comme ça. Oui.
Qui organise, voilà, c'est pas à La Réunion dans les hôpitaux qui décide de faire ça, c'est
oui,
vraiment voilà, c'est vraiment
ouais,
c'est une décision politique, donc c'est quasiment on appelle
c'est
ça des avortements,
j'osais
pas dire le mot, mais c'est un génocide organisé. Dans des années, donc on est dans les années 73, voilà, où on
mais
considère...
Mais c'est pas aussi dans ces années-là où il y a pas mal d'enfants réunionnais qui
si,
ont été importés...
Les enfants de la Creuse.
Oui, voilà.
Ouais, les enfants de la Creuse aussi, absolument.
Et ouais.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, pour le coup, qu'il y a une sororité qui s'installe depuis quelques temps, qu'il y a une plus grande solidarité entre femmes? Non.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Moi, non. Moi, je sais juste que de ce que pour et puis en restant avec tous les sujets qu'on a brassés là, etc. de là où j'en suis, moi, actuellement, dans mon parcours, etc., c'est difficile parfois de faire corps avec une personne qui, en face de moi, n'a pas pensé sa position dans le monde, ou est en train de le faire, ou j'en sais rien. Mais on en revient à cette question de la race, en fait, qui... On n'y est vraiment pas encore, parce que ça fait peur, parce que ça remue trop de choses, en fait. J'en sais rien. Et voilà. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, créer corps avec des femmes blanches qui ne pensent pas leur blanchité, en tout cas, c'est difficile. C'est la seule réponse qui me vient pour le moment.
Je ne pourrais pas mieux dire. Ouais, c'est complètement partagé.
On va bientôt s'arrêter là. En fait, j'ai pas envie de couper nos échanges. J'ai adoré tous nos échanges.
On peut poser simplement la question de l'état des recherches intersectionnalité dans l'université française aujourd'hui.
Pour juste resituer, on m'a laissé monter le master à Lyon, et puis j'ai été recrutée à Reims aussi pour pouvoir le monter. Donc, inégalité, discrimination et territoire. C'est le mot intersectionnalité que j'avais mis dans un des intitulés de cours où on m'a demandé de l'enlever. D'accord. Donc j'ai été obligée de mettre approche plurielle. Ah ben, mais si vous avez suivi ça, pour le coup, on a un ministre de l'Éducation nationale qui nous a tapé, parce que nous, on est sous deux tutelles à l'INSPE. On a un ministre de l'Éducation nationale qui est Blanquer, pour ne pas le citer, et une ministre Vidal de l'enseignement supérieur, qui sont partis en chasse contre toutes les chercheurs et chercheuses travaillant sur les questions intersectionnelles, parce que on était directement considérés comme des islamo-gauchistes.
D'accord.
Voilà. C'est ça. Moi, ce qui me, pour voir un peu le côté positif entre guillemets, ils ont peur. Enfin, il y a une forme de... Parce que très souvent, moi, je peux tomber dans un espèce de désespoir, en mode le monstre en face de moi est trop grand, il a les dents acérées et la répression, etc., etc. Et quand je vois des choses comme ça, je me dis, en fait, ça flippe.
Ça flippe, comme tu dis, du coup, je te tutoie maintenant. C'est la remise en question. Franchement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est la remise en question du privilège blanc. C'est la remise en question comment je pourrais dire ça dans des formes
du capitalisme racial avancé.
Le désordre. Je dirais pas que ça fait peur, parce que ça ramènerait encore à de l'émotion, mais le désordre, ça déséquilibre une organisation de société. Et quand on est bien situé dans cette société, on n'a surtout pas envie que ça se modifie. On n'a pas envie de changement. On n'a pas envie de faire des excuses sur la colonisation. On peut parler de la décolonisation, mais c'est parce que... Et puis, on a déjà... C'est la construction d'un savoir qui nous sert. Et, et le savoir qui nous sert, et ben, tant pis s'il est faux. Tant pis si on ne le déconstruit pas, si on ne le revoit pas, si on raconte des histoires fausses, si on apprend aux enfants des histoires qui sont fausses, c'est pas grave, tant que ça peut servir un ordre.
C'est ça. Et qui favorise l'individualisme, parce que là, quand vous parlez, c'est marrant, des histoires qu'on raconte aux enfants. Il y avait une conférence jeudi dernier de Christian Bruel qui venait parler de la littérature jeunesse et qui expliquait, en fait, c'était très intéressant, l'historique un peu des représentations. Donc à un moment donné, la religion qui prend toute la place, raconte tout, dicte tout comment il faut. Ensuite, il y a la République, la grande république. Après, le groupe, donc on est quand même dans un truc représentation, groupe, collectif. Et puis là, on est dans l'ère de l'individualisme depuis longtemps, et que même du coup dans les livres jeunesse, le héros est représenté seul, tout le temps seul. Et je refais juste ce pont parce que c'est pour encore reformuler tout ce qu'on a dit. C'est que je pense vraiment que ce qui fait peur dans l'intersectionnalité, c'est que ça pourrait permettre de faire corps commun.
Ça pourrait faire.
Que l'ordre établi ne le veut pas, en fait.
Ça pourrait faire corps commun, partager des vécus, créer un nouvel universel. Parce que, effectivement, on est dans une société individualiste qui sert bien le capitalisme, en plus. On est dans une société individualiste où il faut faire reposer les échecs, les défaillances sur les individus. Donc si on commence à dire aux individus, bah, c'est, si t'as pas fait d'études, etc., c'est ta faute, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, avec la logique compétence, c'est ta faute, t'as pas assez étudié, si tu décroches, c'est ta faute, t'aurais dû aller, voilà,
t'as pas traversé la rue
pour aller chercher du travail, etc., c'est ta faute. Et évidemment, ça sert, ça. Alors que si on commence à se dire, oh, mais attends, c'est peut-être pas tant ma faute, parce que statistiquement, je fais partie de là, et puis moi, j'ai pas eu accès, puis on m'a mis dans tel lycée, REP, pourquoi je me suis retrouvée là. Et donc, du coup, on sait que bah, y a des inégalités sociales qui sont pas réparées par l'école, et au contraire, on sait que l'école, aujourd'hui, les exacerbe des inégalités sociales. Mmh. Voilà, donc ça
que
ramènerait...
Le cumul qu'on a, qui est différent... Pardon.
Oui, pardon. Non, non, terminons, on enchaînera
non, mais
juste pas sur après.
Que... Enfin, oui.
Et sur l'état de la recherche, moi j'ai juste envie, alors si on doit retenir un mot de la fin parce que je dois y aller, c'est vraiment, moi ce qui me rassure, c'est qu'on pourra dérouler le, comment on appelle ça, le rouleau au compresseur, c'est comme ça qu'on dit, sur les questions d'intersectionnalité, c'est trop tard. J'ai envie de dire, ma note positive, au niveau de la recherche, c'est vraiment trop tard, parce qu'on a des jeunes qui travaillent sur ces sujets, des doctorants qui me sollicitent notamment pour les encadrer pour leur thèse ou autre. Il se passe plein de choses. Et c'est pas un discours, nous les vieux, on est largués, et puis c'est les jeunes, c'est pas ça, c'est que je le vois. Enfin, et eux, alors c'est génial, parce que quand on a des séminaires ou quand on discute, jamais ils vont vous dire race entre guillemets. Hein. Voilà, c'est déjà des choses acquises. Ouais. C'est de ils parlent d'intersectionnalité. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils ont été lire. Enfin, c'est et voilà. Et moi, je me dis, oh bah alors, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. C'est fichu, c'est passé. Moi, je préfère le voir comme ça, en fait.
Eh ben, c'est super. Voilà. Merci en tout cas.
Merci à vous.
J'ai adoré. À très bientôt. Ciao.